Mystère du sacerdoce. Je vous disais donc la dernière fois qu'il fallait bien comprendre ce caractère de surabondance dans cette exigence du sacerdoce. Jésus aurait pu très bien nous donner l'Eucharistie autrement. Et c'est cette manière dont Luther l'a compris. C'est-à-dire pas besoin d'un pouvoir sacerdotal, d'un sacrement. Les pasteurs n'impliquent pas une consécration, ça implique, ils se disent bien une certaine consécration, mais ce n'est pas une consécration sacramentelle. Et ceci, je crois, en raison même de ce qui nous est donné dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, la manne avait été donnée directement par la toute-puissance de Dieu. Il n'y avait pas d'intermédiaire. Je crois que ça joue beaucoup, cela. Le retour à l'Ancien Testament ne donne plus le sens de ce que c'est que le sacerdoce chrétien. La présence des fidèles, présence de foi, d'espérance et d'amour, suffit à expliquer la présence du Christ sous les oblats. Ils ne veulent pas préciser le type de cette présence. Ils disent présence de foi. Et c'est pour ça qu'ils rejettent le point de vue de la transsubstantiation. Parce que le point de vue de la transsubstantiation veut préciser justement qu'il s'agit d'une présence réelle, non pas physique au sens qu'on l'entend selon notre monde physique, mais une présence substantielle, une présence dans l'ordre de l'être. Donc objective, tandis que pour eux, c'est une présence en fonction de la foi. Le sola fide de saint Thomas est compris d'un point de vue subjectif. Pour celui qui n'a pas la foi, il n'y a pas de présence réelle. La présence réelle n'existe que pour celui qui a la foi. Donc c'est une présence subjective. De fait, ça aurait pu exister, c'est une manière de concevoir l'Eucharistie, qui n'est pas selon la tradition de l'Église. Dit au contraire, et alors c'est ici où il faut bien saisir, le Concile de Trente le précise, et le Saint-Père actuel l'a précisé plusieurs fois. Chaque fois qu'il y a des crises par rapport au sacerdoce, l'Église reprend ce que signifie d'une façon plus profonde le mystère du sacerdoce. Alors, comprenons que l'Église affirme qu'il y a un sacrement nouveau et que c'est Jésus qui a transmis aux apôtres, après la consécration du pain et du vin, a transmis aux apôtres un pouvoir, une dunamis, un pouvoir instrumental, qu'on appelle le sacerdoce ministériel des fidèles, le sacerdoce ministériel du prêtre. Donc, il faut préciser quel est ce pouvoir instrumental, comment le concevoir. Ce caractère particulier qui est donné à un homme, puisque selon la tradition de l'Église, ce sont des hommes, et que la femme ne reçoit pas le sacerdoce ministériel, elle doit être tout entière donnée au sacerdoce mystique. Nous essaierons de comprendre ça après, que ce n'est pas du tout une diminution, parce que quelquefois on peut le concevoir comme une diminution. Alors à ce moment-là, on oublie les rapports entre le sacerdoce ministériel et le sacerdoce mystique. Dès qu'on comprend les relations qui existent entre les deux, il n'y a plus possibilité de concevoir que c'est une diminution. Parce que d'un côté, c'est un service. C'est un service d'amour, c'est très très vrai. Vous n'êtes plus mes serviteurs, mais vous êtes mes amis. C'est un service d'amour, mais c'est un service. Autrement dit, le sacerdoce ministériel est de l'ordre instrumental. Ce qui dit de l'ordre instrumental ne dit pas une sanctification plus grande. dit simplement un pouvoir instrumental qui est conféré à des hommes pour les faire des serviteurs du culte et pour leur permettre, les rendre capables de consacrer le pain et le vin au milieu de l'Eucharistie. Alors, comment préciser ce pouvoir qui doit être au niveau des sacrements? Là, la très grosse difficulté, vous voyez, comme il y a une présence réelle au niveau sacramentel, il y a un pouvoir qui est un pouvoir qu'on appelle le caractère. Et ce caractère est imprimé dans l'intelligence pratique, comme dit saint Thomas. Alors ça, c'est la conclusion du théologien, parce que je ne crois pas que ça a été précisé par l'Église de cette manière aussi forte. Donc, dans l'intellect pratique, comme la prudence. Et ce n'est pas une vertu, c'est un pouvoir, une capacité de réaliser quelque chose. Donc, ce n'est pas de l'ordre de la vertu. C'est de l'ordre, au contraire, du facere. Mais c'est de l'ordre du facere au niveau sacramentel. C'est de réaliser une œuvre nouvelle. C'est une capacité pour réaliser une œuvre nouvelle. Et cette œuvre nouvelle, c'est le mystère de l'Eucharistie. Capable de réaliser cette œuvre particulière qu'est l'Eucharistie. Alors, c'est un pouvoir donc instrumental au niveau du caractère, au niveau de cette capacité et au niveau sacrement, capable de réaliser une œuvre particulière qui est l'œuvre du Christ, l'œuvre du législateur, réaliser l'Eucharistie. En premier lieu, le pouvoir sacerdotal est donné pour réaliser l'œuvre de l'Eucharistie. Vous vous souvenez ce que le Saint-Père avait dit avec tellement de force, peut-être pas pour pouvoir le dire, il avait dit ça au Parc des Princes, je suis pape depuis 2 ans, je suis évêque depuis 20 ans, je suis prêtre depuis, je crois que ça faisait 30 ans ou 40 ans, et la chose principale, c'est d'être prêtre. Donc il l'avait dit avec force, puisque le sacerdoce est directement lié à l'Eucharistie. Or, on ne peut pas réaliser une œuvre plus grande que réaliser l'Eucharistie, c'est-à-dire être instrument du sacrement de l'Eucharistie, de ce sacrifice du Christ qui nous est renouvelé sous ce mode sacramentel. Donc, c'est un pouvoir donné à l'homme baptisé. Quelqu'un qui ne serait pas baptisé, qui recevrait le sacrement du sacerdoce, ne le recevrait pas. On va l'oublier. Vous ne pouvez pas passer toutes les étapes, hein, disant, moi j'aime mieux tout de suite prêtre, hein, et être tout de suite grand prêtre, ce serait mieux. Non, il faut être baptisé. C'est le baptême qui rend apte à recevoir le sacerdoce. Donc, et ça, c'est curieux du reste, et c'est intéressant de voir ça. C'est que le baptême rend apte à recevoir le baptême, à recevoir le sacerdoce. Le baptême implique aussi un caractère, nous le verrons. Et la confirmation aussi, il y a 3 sacrements qui impliquent un caractère. Et ce caractère qui est donné par le sacerdoce est un caractère donc qui donne la capacité d'agir in persona Christi. D'agir dans la personne du Christ. Pas simplement au nom du Christ. Et le Saint-Père souligne cela dans sa lettre au prêtre. Le jeudi saint, il y a déjà 3 ans. Je crois que c'est 3 ans. Dans sa lettre au prêtre, il dit qu'il ne s'agit pas de dire « j'agis de la part du Christ », j'agis au nom du Christ. Ceci demeure dans l'ordre intentionnel, au niveau moral. Tandis qu'il y a quelque chose de plus dans ce pouvoir sacerdotal, c'est d'agir in persona Christi, c'est d'agir de pouvoir réaliser ce que le Christ lui-même réalise. Donc on est instrument d'une manière plus personnelle. Je crois que c'est ça qu'il faut comprendre. Parce que justement, l'intentionnalité des sacrements, je vous l'ai dit à propos de l'Eucharistie, est une intentionnalité divine. Si c'est une intentionnalité divine, c'est une intentionnalité substantielle. Elle a un enracinement ontologique. Elle n'est pas seulement morale. Donc elle a un enracinement ontologique, un enracinement substantiel, qui fait que le prêtre, comme prêtre, agit in persona Christi pour réaliser l'œuvre de l'Eucharistie. Réaliser le sacrifice de la messe. Alors, vous voyez, il faut bien garder in persona Christi, c'est l'expression même du Concile de Trente, et c'était l'expression de saint Thomas. Alors, c'est très difficile à bien comprendre. Hein. Ça veut dire qu'on est instrument fondamentalement. Moi, je crois que c'est ça qu'il faut dire. Instrument, vous voyez, au niveau d'une fonction, au niveau d'un facere, au niveau d'une réalisation particulière, une œuvre spéciale, mais une œuvre qui est substantielle, puisque transformation du pain dans la substance du corps du Christ. Donc, c'est une œuvre substantielle qu'il réalise. Puisque c'est une œuvre substantielle, la personne est engagée. Et je crois que c'est pour ça qu'il dit une persona Christi. Mais il faut bien comprendre que le caractère du sacerdoce n'est pas reçu dans l'âme substantielle. C'est la grâce qui est reçue dans l'âme substantielle. Mais le caractère du sacerdoce est reçu, lui, dans l'intelligence pratique. Oui, comme un art. Un art est reçu dans l'intelligence pratique. C'est une espèce d'art. Si je veux comprendre ce que c'est que le pouvoir sacerdotal, je dois faire appel à deux analogies. Je dois faire appel à l'analogie de l'art, puisqu'il s'agit d'un facere, réaliser une œuvre. Je dois faire appel aussi à un pouvoir, pas seulement un habitus, l'art est un habitus, à un pouvoir, parce que c'est plus qu'un habitus, c'est une dunamis qui vous prend radicalement pour pouvoir réaliser une œuvre substantielle. C'est difficile de bien savoir ce que c'est que le caractère. Bien comprendre ce que c'est que le caractère. On l'affirme, hein. On ne comprendra jamais, c'est un mystère, hein. Mais on peut quand même préciser. Et on peut préciser les deux analogies. Il faut toujours avoir deux analogies, vous savez bien, pour que le mystère soit vu d'une façon plus parfaite. Alors, l'analogie de l'habitus d'art et l'analogie de du pouvoir, de la puissance. Il faut prendre les deux analogies, parce que c'est à la fois une nouvelle capacité d'agir, substantielle, et c'est une nouvelle qualité d'une œuvre qualitative. Cette œuvre qualitative étant justement de réaliser une œuvre au niveau sacramentel. Vous voyez, les deux. Et les deux nous font entrer dans ce que représente ce pouvoir sacerdotal. Ce pouvoir sacerdotal est instrumental. Puisqu'on agit in persona Christi. Donc, il est instrumental. Parce qu'il est instrumental, il met le prêtre dans une référence immédiate au Christ. Le Christ agit par lui. Le Christ agit en lui pour réaliser l'Eucharistie, donc principalement l'auteur de la messe, c'est le Christ. Principalement. Secondairement, d'une façon instrumentale, c'est le prêtre. C'est pour cela qu'au fond, n'importe quelle messe qu'on assiste, substantiellement, c'est la même. C'est quand même très important de se rappeler ça. Parce que si on s'arrête trop à la modalité de l'instrument, il y a quelque chose qui n'est pas assez contemplatif. Pour vivre la messe d'une manière contemplative, il faut revenir à l'instrument principal, hein, je veux dire à l'auteur principal, qui est le Christ. Le Christ agit à travers un prêtre, à travers un homme qu'il considère comme son instrument. Ce n'est pas négligeable, c'est bien évident, mais ce n'est pas premier. La foi regarde en premier lieu l'auteur principal, exactement comme nous faisons pour la parole de Dieu. Vous pouvez vous arrêter énormément à l'instrument, mais à ce moment-là, vous oubliez ce qu'il y a d'essentiel. Ce qu'il y a d'essentiel dans la parole de Dieu, c'est que c'est la parole de Dieu. Et donc vous regardez l'auteur principal qui est l'Esprit Saint. Qu'est-ce qui est principal dans l'Eucharistie? Qu'est-ce qui agit d'une façon principale? C'est le Christ. À travers un homme et se servant de la voix d'un homme. Alors, quelles sont les conditions pour que ce pouvoir sacerdotal instrumental puisse être valide? L'Église distingue toujours ici les conditions de validité et les conditions de licéité. Donc ça, petite distinction qu'il faut connaître. Les conditions de validité, c'est pour qu'il y ait vraiment sacrifice eucharistique, pour qu'il y ait vraiment sacrement. Les conditions de validité. Les conditions de validité, c'est que le prêtre soit vraiment ordonné prêtre, donc qu'il ait accepté librement. On ne peut pas donner le sacerdoce de force. Quelqu'un qui ne voudrait pas recevoir le sacerdoce et qui pourtant serait là présent et qui, de fait, matériellement, serait présent comme tous les autres, mais qui ne le voudrait pas dans son âme, ne serait pas ordonné prêtre. Ce n'est pas automatique. Ça ne peut pas ordonner des enfants. Ils ne savent pas ce que c'est. On ne peut pas ordonner un enfant dans son berceau, je t'ordonne prêtre. Tu seras prêtre pour l'éternité. C'est ça, ça doit selon Melchisédek, au-dessus du temps. Donc je pourrais ordonner des enfants. Après tout, pour être sûr qu'il y ait des prêtres. On mettrait autour de son cou, n'est-ce pas, il a été ordonné prêtre à tel âge. Alors comme ça passerait toutes les frontières. Non, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas ordonner un enfant. Il faut qu'il soit libre. Vous voyez, tandis que vous pouvez baptiser un enfant sans son consentement. Il y a quelque chose de très particulier, là. Et ça, c'est en fonction, justement, de la finalité du sacerdoce. Ce que nous allons voir après. Et c'est en fonction de la finalité du sacerdoce qu'il faut comprendre ça. Donc il faut que ce prêtre ait reçu le sacerdoce librement, et non pas sous la terreur ou sous des fausses promesses, vous savez. Ce genre de sacerdoce de temps en temps, la mère veut à tout prix qu'il y ait un enfant prêtre, alors sous son lit de mort, elle fait promettre à son fils qui a 17 ans qu'un jour il sera prêtre. Et l'enfant, dans l'émotion de l'agonie de sa mère, lui promet. Mais au fond, c'est pas du tout, et il n'a pas du tout l'intention, pas du tout le désir. C'est un cas d'annulation. Un cas d'annulation. Considérer qu'il n'y a pas eu de sacerdoce. Oui. Donc il faut que le prêtre l'ait voulu. Qu'il l'ait accepté librement et qu'il l'ait voulu. Et il faut, deuxièmement, que dans son exercice même de prêtre, il désire faire ce que l'Église lui demande. Il est l'intention profonde de l'Église. C'est pour ça que même s'il a des doutes au point de vue de la foi personnelle, il peut consacrer validement. Il est instrument. Il a l'intention de faire ce que l'Église veut qu'il fasse. Même s'il est en état de péché mortel, il peut consacrer validement. Il a les intentions de faire ce que l'Église veut. Et c'est très important, ça, le côté instrumental. Donc le côté second qui n'exige pas la rectitude de la cause principale, qui veut tout simplement qu'on soit en référence, en liaison avec la cause principale, et qu'on agisse selon les désirs de la cause principale et les intentions de la cause principale. Et autrement, il y a quelque chose qui ne va plus. Alors, avoir l'intention, parce que c'est un instrument animé. Le prêtre n'est pas un instrument inanimé. C'est pour ça que pour recevoir le sacerdoce, il fallait qu'il le reçoive librement. Et quand il l'exerce, il doit l'exercer librement, avec les intentions de l'Église. Et derrière les intentions de l'Église, l'intention du Christ. Vous voyez, donc, les deux étant intimement unis, et inséparablement unis. On ne pourrait pas dire, j'ai les intentions du Christ, je ne veux pas avoir les intentions de l'Église. Que les sacrements sont les sacrements du Christ et les sacrements de l'Église. Et donc, il doit avoir l'intention de ce que l'Église fait, le désir qu'il fasse. Donc, au point de vue, condition de validité, je crois que ce sont les deux seuls. Alors, ajoutons, pour que les intentions soient valables, le point de vue de la matière utilisée dans le sacrement. Alors, une très grosse discussion qui entre là-dessus. Je ne vais pas entrer là-dedans, parce que ça c'est toutes les piquilles, savoir si vous consacrez une messe dans les pays d'Asie, avec non plus du pain froment, mais du pain de riz, est-ce que c'est valide? En employant non plus le point de vue du vin, mais tout simplement un alcool n'importe lequel, qui pourrait être un alcool de palmier, le vin de palmier, comme on dit, n'est-ce pas? Est-ce que ce serait valide? Là, c'est les grosses questions. C'est pas intéressant au point de vue proprement théologique, mais c'est intéressant au point de vue pratique de l'Église. Bon, jusqu'à nouvel ordre, la validité réclame une matière telle que l'Église le veut. Sauf que je crois que ça nécessite à une messe auquel, de fait, ce n'est plus du pain de froment, et que c'est du pain de maïs, ou que c'est du pain de riz. Je pose un point d'interrogation, mais je crois que ce n'est pas valide. De même pour le vin. Donc là, il y a l'exigence de l'obéissance à l'Église. C'est une question d'obéissance à l'Église. L'Eucharistie ne relève pas du prêtre. Il ne lui appartient pas. Mais pour la validité, il suffit de la prononciation des paroles de la consécration. Ce n'est pas les canons qui rendent valide le point de vue de la messe. Ceci a été déterminé déjà depuis très longtemps. Ce n'est pas du tout récent. Ça a été déterminé déjà dès le XIVe siècle, le XVe siècle. Les théologiens ont précisé que c'était uniquement les paroles de la consécration qui rendaient la messe valide. Et c'est pour ça que Pie XII avait permis, en temps de captivité en Allemagne, de pouvoir consacrer le pain et le vin simplement récitant les prières de la consécration. Pour qu'il y ait l'Eucharistie à distribuer auprès de tous les prisonniers. Donc dans les camps de concentration, on avait permis cela. Et c'était Pie XII. Très important, parce que Pie XII est reconnu par tout le monde, n'est-ce pas, comme pape et dans la tradition. Et là, on voit cette audace très très grande de Pie XII, puisque les sacrements sont propres terumines. On peut faire tomber toute la liturgie secondaire. Dans la liturgie secondaire, il y a la liturgie de la parole. Elle est essentielle, mais elle est secondaire. Il y a le canon, c'est essentiel, mais ce n'est pas ce qui forme l'essentiel de la validité du sacrement. Ben évidemment, c'est la question de la validité. La question de la licéité. C'est-à-dire, si le prêtre agit en conformément avec l'Église et que ce qu'il fait est bien, est une œuvre pie, une œuvre bonne, une œuvre moralement bonne. Alors là, c'est la question de la licéité. La question de la licéité est toujours lié à la juridiction. Un prêtre qui n'a pas la juridiction, c'est-à-dire un prêtre qui est interdit, s'il dit la messe, sa messe est valide, mais elle n'est pas licite. Et tous ceux qui y coopèrent commettent une faute. Ceux qui coopèrent consciemment, parce que constamment, les gens n'ont plus de conscience de ça. Et c'est important de comprendre la licéité qui relève du pouvoir de juridiction. La licéité réclame l'obéissance à l'Église, par exemple dans la législation des canons, et ne pas inventer son canon. La créativité du canon tous les jours, selon l'inspiration du moment, eh bien ça, ce n'est pas permis, ce n'est pas licite. Ce ne serait pas licite non plus d'employer des oblats qui soient vraiment tout à fait autre chose que ce que l'Église réclame. Il pourrait y avoir validité, il n'y aurait pas licéité. Donc, il faut comprendre les deux. Ça, c'est une question de théologie et de droit canon qui est important à saisir. Et le pourquoi, c'est parce que le prêtre n'est pas uniquement serviteur, il est laïc. Alors, il faut qu'il soit parfaitement intégré dans l'Église. Et chaque prêtre qui dit la messe est entièrement intégré dans l'Église. Voilà pour le caractère du sacerdoce, vous voyez, un pouvoir. crois que c'est encore ça qu'il traduit mieux. Une capacité pour transformer le pain en vin dans le moment de la, au moment de la consécration. Et pour pouvoir être pris, être saisi par le Christ et agir in persona Christi. Agir à la place du Christ, agir plus qu'en son nom, agir dans sa propre personne. Le prêtre est ordonné pour l'Eucharistie, en premier lieu. Et ceci en fonction même de la première scène. Et c'est ce que le Saint-Père rappelle. La première scène nous a montré le lien voulu par le Christ. Et vous voyez que lorsqu'il s'agit du sacerdoce, on peut dire que l'institution du sacerdoce relève directement du Christ, par le sacrement de l'Eucharistie. Et là, nous pouvons découvrir la finalité propre du sacrement de l'Eucharistie, c'est pour donner l'Eucharistie aux fidèles. C'est pour donner le pain aux fidèles, le pain eucharistique, et qu'il est en surabondance. Les sacrements sont pour les hommes, et l'Eucharistie spécialement pour les hommes, pour permettre aux hommes de recevoir l'Eucharistie. Oui, c'est là où on voit très bien que lorsque il y a plusieurs prêtres, alors que ce serait tellement utile qu'il y ait plusieurs messes successives, mais en raison de la concélébration, quelquefois, il n'y a qu'une célébration entre telle heure de midi matin et telle autre heure du matin. Eh bien, je crois que c'est manquer à la finalité du sacrement. Parce que les sacrements sont propter homines. Si les sacrements sont propter homines, c'est-à-dire pour les hommes, si les sacrements sont pour les hommes, on doit pouvoir multiplier l'Eucharistie pour permettre à chacun qui peut y aller à telle heure de pouvoir y aller. Propter homines, c'est une exigence très grande, ça. Et c'est toute une compréhension du sacrement. Vous voyez, c'est là où on touche la surabondance du sacrement. Le sacrement implique cette surabondance, et cette surabondance, c'est justement pour que les hommes aient en plénitude l'amour de Dieu, l'amour du Christ, le don du pain. C'est le pain, donc c'est la nécessité. Donc c'est la première fonction du prêtre, l'Eucharistie. C'est ça qui le définit et qui lui donne sa raison d'être. C'est le pape qui dit ça, la raison d'être. C'est aucun théologien ne veut dire. Je crois que même Saint Thomas ne l'avait pas dit. Ça m'a frappé. Si Saint Thomas l'a dit, tant mieux. On donnera la référence. Je crois fort que c'est une précision du pape, que la raison d'être du sacerdoce, c'est l'Eucharistie. C'est intéressant au moins de voir que le Saint-Père le dit. Parce que ça montre que je ne peux pas définir le sacerdoce sans l'Eucharistie. Et que le sacerdoce est lié à l'Eucharistie. Ça fait partie, si vous voulez, de la vocation propre du prêtre. Il est prêtre pour célébrer la messe. Il est prêtre pour donner l'Eucharistie. En premier lieu, il y a d'autres fonctions du prêtre, nous allons les voir, mais c'est celle-là qui est primordiale et qui est fondamentale. Il est déterminé à de nous, là, vous voyez. Il est déterminé vraiment pour cela. Et là, il touche son œuvre propre. Donc, pouvoir instrumental. Il permet au prêtre de recevoir l'intention profonde de Jésus comme législateur, le commandement profond de Jésus comme législateur, faites ceci en mémoire de moi, et de vivre de ce mystère. Regardons maintenant, si vous voulez tout de suite, le lien entre le sacerdoce royal des fidèles et le sacerdoce ministériel. Ça nous aidera à mieux comprendre ce que représente le point de vue proprement intentionnel du sacerdoce ministériel. Il ne peut pas être final. Il est intermédiaire. Et ce qui finalise tout, c'est justement le point de vue du sacerdoce royal des fidèles. On pourrait dire, vous voyez, que le sacerdoce royal des fidèles finalise. Il ne spécifie pas. il finalise. Le prêtre est pour le peuple de Dieu. Et ce qui spécifie le sacerdoce, la raison d'être du sacerdoce, c'est l'Eucharistie. Donc, il finalise le sacerdoce royal des fidèles. Alors, que représente exactement ce sacerdoce royal des fidèles? C'est là où c'est très délicat. Si vous regardez les textes de l'Écriture, les textes du Concile Vatican II, parce que c'est là où, de fait, c'est le grand lieu. Vous voyez, il me semble que tous les textes qui parlent du sacerdoce royal des fidèles ramènent le sacerdoce royal des fidèles au baptême, à la grâce du baptême. D'une façon non précise, hein. On regarde les deux sacerdoces. Et c'est là où je me demande si on n'a pas une précision à faire. Alors je pose ça en interrogation, parce que c'est assez délicat et c'est toujours très difficile à bien préciser. Mais je crois que c'est important. C'est important quand même à saisir cela. Qu'est-ce que c'est que le sacerdoce royal des fidèles? Le sacerdoce royal des fidèles, c'est faire que les fidèles dans le Christ sont responsables de toute l'humanité. C'est faire que les fidèles dans le mystère de la rédemption doivent coopérer au mystère du Christ. Autrement dit, le sacerdoce royal des fidèles va être le mystère de la compassion en premier lieu. C'est le mystère de la compassion. Va être le mystère de l'adoration et le mystère de la charité fraternelle. Je mettrai ces trois aspects qui me semblent être les trois aspects essentiels du sacerdoce royal des fidèles. Le point de vue, donc, si vous voulez, le point de vue de l'adoration et de la louange, on loue pour l'humanité entière, on adore pour l'humanité entière. Donc, adoration et louange, mystère de compassion, mystère de charité fraternelle et de responsabilité les uns par rapport aux autres dans la charité fraternelle. Qu'as-tu fait de ton frère? Il a oublié d'être responsable de son frère. Si je regarde attentivement ces trois effets, est-ce que ces trois effets reposent vraiment sur la grâce et le caractère du baptême? Il ne me semble pas. Parce que ce qui repose sur le baptême demeure d'ordre intentionnalité substantielle et divine. Demeure au niveau sacramentel. Or, tous les sacrements sont des moyens. Or, le sacerdoce royal des fidèles n'est pas un moyen. C'est notre propre sainteté. C'est le mystère de la compassion, c'est le mystère de l'adoration, c'est le mystère de la charité fraternelle. Donc, c'est de l'ordre de la grâce substantielle. Et ce n'est pas de l'ordre proprement sacramentel. Et c'est cela qu'on doit regarder. Il faut bien distinguer l'ordre de la grâce sanctifiante et l'ordre sacramentel. L'ordre sacramentel est tout entier ordonné à la grâce sanctifiante. Les sacrements produisent une certaine grâce qui permet de vivre davantage de la grâce sanctifiante. Et la grâce sanctifiante, c'est celle qui nous sanctifie. C'est celle qui fait de nous des saints. Nous ne sommes pas saints par le point de vue des sacrements, considérés en lui-même, ou considérés en eux-mêmes. Ce que Marthe souligne d'une façon très audacieuse, quand elle se demande s'il vaut mieux faire oraison ou d'aller communier. Et Marthe dit qu'il vaut mieux faire oraison. Et je crois que c'est très juste. Parce que c'est l'exercice de la foi, de l'espérance et de la charité au niveau de la grâce substantielle, dans ce qu'il a de tout à fait essentiel. De l'autre côté, c'est toujours par un point de vue d'instrument. Donc c'est jamais final. Alors évidemment, quand il s'agit d'Eucharistie, cet instrument est conjoint à sa fin. Alors c'est très délicat. Cet instrument est très conjoint à sa fin. Alors c'est pour ça qu'on pourrait dire que l'Eucharistie, d'une certaine manière, c'est plus que l'oraison, et d'une autre manière, c'est moins que l'oraison. C'est ordonné à l'oraison et c'est pour l'oraison. Donc c'est ordonné pour l'oraison, quelque chose qui reste relatif à la grâce infligeante. Alors, vous voyez tout de suite le problème qui peut se poser ici. Si vraiment le sacerdoce royal des fidèles doit se comprendre par la grâce sanctifiante en premier lieu, et non pas par la grâce du baptême. Alors, je vais un peu plus loin, vous allez comprendre tout de suite, parce que ça c'est la confirmation. Quand il s'agit de Marie, je crois que Marie est la première dans le sacerdoce royal des fidèles. Ça fait partie de son mystère, et dans son mystère dans ce qu'il a d'essentiel. Marie est vraiment la première dans l'ordre du sacerdoce royal des fidèles. Si Marie est première dans l'ordre du sacerdoce des fidèles, Marie n'a pas reçu le baptême. Elle est immaculée. Et c'est le mystère de l'Immaculée Conception qui nous fait pénétrer le plus avant dans le mystère du sacerdoce royal des fidèles. Et nous comprenons le sacerdoce royal des fidèles de Marie dans son mystère de compassion, dans son mystère de maternité divine auprès de Jean et auprès de l'Église. La maternité divine de Marie est éminemment sacerdoce royal des fidèles, comme sa compassion est éminemment sacerdoce royal des fidèles. Là, elle est maxime étalée. Elle est celle qui vit le plus de ce sacerdoce royal des fidèles. Elle n'a pas le sacerdoce ministériel. Alors, vous voyez les liens qui vont se faire tout de suite, une fois qu'on a compris ça, parce que je crois ça très important. Et, encore une fois, c'est possible, si vous avez des travaux qui ont bien travaillé ça, c'est intéressant de bien les regarder, d'accord ? Mais vous voyez, ce n'est pas la même chose de parler de la grâce sanctifiante et le niveau de la grâce sanctifiante, et voir que le sacerdoce des fidèles est au niveau du développement de la grâce sanctifiante, donc il est directement à la sanctification, que de voir le point de vue grâce sacramentaire. La grâce sacramentaire est ordonnée à la grâce sanctifiante. Et la grâce sacramentaire, quand il s'agit par exemple du sacerdoce ministériel ou quand il s'agit du baptême, est une grâce qui permet de pouvoir participer à tout le culte sacramentel de l'Église, de pouvoir participer à tout le culte chrétien. Mais cette grâce sacramentelle n'est pas aussi enracinée en nous que la grâce sanctifiante. Et je ne crois pas qu'on puisse dire, alors c'est là où c'est très délicat, qu'on puisse dire que le sacerdoce royal des fidèles s'appuie en premier lieu sur la grâce sacramentelle du baptême. Ce qui se dit tout le temps. C'est pour ça que je m'en demande, parce que j'ai peur de quelque chose qui n'est pas catholique. Mais je me pose la question. Partout, je vois toujours, le point de vue du sacerdoce royal des fidèles, enraciné dans la grâce sacramentelle du baptême. Alors, vous voyez bien, quand il s'agit de Marie, je crois que c'est quand même Marie qui veut nous aider à comprendre. C'est la femme qui veut nous aider à comprendre ce que représente ce sacerdoce sacramentel, ce sacerdoce royal des fidèles. Elle n'a pas la grâce du baptême. Elle a plus. Elle a la plénitude de grâce dans l'Immaculée Conception. Donc, si elle a plus, son sacerdoce royal des fidèles s'appuie sur sa grâce sanctifiante. Il me semble bien, je ne peux pas dire autrement. Alors, qu'est-ce que c'est que ce sacerdoce royal des fidèles ? C'est tout simplement mettre en lumière que notre grâce que notre grâce sanctifiante est chrétienne. C'est-à-dire qu'elle participe à la grâce capitale du Christ. La grâce capitale du Christ, c'est le sacerdoce de Jésus. Et notre grâce sanctifiante, elle participe directement à la grâce capitale du Christ. La grâce capitale du Christ, c'est le sacerdoce de Jésus. Et c'est pour ça que tout chrétien, du fait même qu'il est chrétien, du fait même qu'il croit dans le Christ, il est lié au Christ. Alors il est lié, c'est très faible, hein, la grâce sacramentelle, on dira qu'il est membre du Christ. Oui, mais il est membre du Christ et il est lié au Christ premièrement par sa grâce sanctifiante. C'est la grâce sanctifiante qui, venant du Christ, va nous faire comprendre comment nous sommes liés au sacerdoce de Jésus. On est médiateur, médiateur dans l'ordre de l'amour. Alors, ça nous permet, voyez, de beaucoup mieux comprendre les rapports entre la grâce du sacerdoce, ministériel. Si vous enracinez le sacerdoce royal et fidèle dans la grâce sanctifiante, vous comprenez mieux la finalité. Tandis qu'autrement, vous comprenez très difficilement la finalité. Parce que d'un côté, il y a le baptême, et d'autre côté, il y a le sacrement. Or, alors à ce moment-là, vous avez la tentation de dire, le sacerdoce royal des fidèles, oui, c'est la donnée générique. Et ce n'est pas ce qui finalise. Parce que je ne peux pas dire que le sacerdoce ministériel est finalisé par le baptême. Il est finalisé par la sainteté des fidèles. Alors réfléchissez sur ce point. Et je crois que c'est important parce que beaucoup de conflits ou de points délicats viennent de ce point de vue-là.